l'événement de l'Asie centrale, de la marche conduite. Alors c'est très difficile d'établir des chiffres, bien sûr. En tout cas, il y a certainement pas mal de dizaines, de milliers.
Dans une mosquée comme ici, par exemple, il peut y avoir une communauté soufie, une communauté soufie qui s'installe et pratique ensemble.
Ils pratiquent entre eux. Ça ne les empêche pas du tout de fréquenter les mosquées, bien sûr, mais souvent ils ont leur petit lieu de réunion.
Oui, ici. C'est pas visible, c'est là.
C'est pas visible.
Peut-être, Pierre, si vous pouvez passer un petit peu de temps pour expliquer ce qui a suscité l'émergence du soufisme, les conditions de l'émergence du soufisme et qu'est-ce qui fait que ce soit trop vivace.
C'est difficile de savoir ce qui suscite un mouvement purement spirituel. Mais en tout cas, il est certain qu'à partir des années du 8e, 9e siècle, pour beaucoup de musulmans, l'aspect purement légal ne suffisait plus du tout. Donc il y avait un besoin, la ferveur, tu sais, il y avait un besoin de rapprochement avec le divin. Et que cela n'a fait que s'accentuer au fil des siècles. Et ce qui fait qu'à partir du 11e, 12e siècle, les maîtres spirituels qui auparavant étaient un peu isolés se sont trouvés tellement en quelque sorte sollicités qu'il s'est créé un double étagement en quelque sorte. Le maître spirituel a des disciples qui sont proches, qu'il forme lui-même, que ça peut être quelques dizaines, qui l'initie, disons, au rapprochement et à l'union à Dieu. Mais il y a aussi beaucoup d'admirateurs du maître, des disciples du maître, qui le voient beaucoup moins, qui n'ont pas une vie aussi ascétique et aussi fervente, mais qui font allégeance au maître en espérant retirer de lui une bénédiction divine, une baraka, qui leur permettra de les aider spirituellement ou matériellement d'ailleurs. C'est ce qu'on reproche souvent aux confréries soufis, que les maîtres dispensent en quelque sorte non seulement une direction spirituelle, mais aussi une énergie pour guérir ou pour opérations que l'on qualifierait de magique. C'est ce qu'on appelle le maraboutisme.
Pourquoi dites-vous que l'aspect légal, l'aspect du droit ne suffit
plus? Comment ça sert si pour le musulman ordinaire, donc la prière, le jeûne, le mois de Ramadan, le pèlerinage.
Mais est-ce que ça correspond, ce que je veux dire, est-ce que ça correspond à un contexte politique, social, particulier ou...
Non. Je pense que l'âme humaine a des tendances qui ne dépendent pas, forcément des contextes sociaux et qu'il y a, sur la longue durée, énormément des milliers de personnes pour qui la vie, c'était vraiment vouloir se rapprocher de Dieu, des ici-bas, véritablement.
Les soufistes s'appuient également sur les hadiths.
Oui, effectivement, mais alors ils ont des hadiths qui leur sont particuliers aussi. Parce que vous faites bien de soulever la question. Le prophète Mohammed, c'est le modèle pour tous les musulmans. Et donc, pour les soufis, ils ont créé aussi un profil de Mohammed complètement ascète, qui passait son temps à jeûner et à prier, qui n'est pas la figure que d'autres courants de l'islam regardaient. Enfin, ils sont rendus mystiques, disons, le prophète. Et il le considère comme le premier initié, que c'est l'ange Gabriel qui aurait fourni la première initiation mystique. Mais tout ça, c'est invérifiable. Bon, je ne suis pas présenté là-dessus, mais que ce soit les hadiths cités par les soufis ou les autres, on ne peut pas affirmer que ce soit des documents historiques, bien sûr. C'est chacun qui se donne à soi-même son image du prophète.
Et donc, par opposition, le courant sunnite considère que la rencontre avec Dieu n'est pas possible sur Terre.
Au sens strict, on rencontre Dieu dans l'application de la loi.
Pas dans la prière.
Si la prière peut être acceptée, on accomplit la prière en espérant qu'elle soit acceptée. Mais la prière rituelle, comme je vais vous expliquer, ce sont des gestes et des formules qui sont complètement fixes. On peut y introduire un sentiment, mais c'est complètement fixe. C'est à la lettre près, le geste près. Et donc, pour beaucoup, prenez par exemple les Wahhabites, qui sont très fervents, pour les Wahhabites, la rencontre à Dieu, c'est dans l'accomplissement de la loi. On aime Dieu en accomplissant sa volonté. Et c'est comme ça qu'on le rencontre en quelque sorte. C'est assez proche du judaïsme, finalement, en tout cas d'un certain judaïsme orthodoxe.
Comment vous pouvez nous situer peut-être, alors rapidement ça va être peut-être difficile, mais le wahhabisme, le salafisme, les frères musulmans, c'est des questions qui sont à la fois religieuses et politiques.
Oui. Le wahhabisme est un courant qui est né au XVIIIe siècle et qui voulait en quelque sorte réislamiser la société en considérant qu'au fil des siècles, les musulmans avaient ajouté beaucoup d'innovations blâmables dans leur pratique, et leur idée, qui à mon avis est illusoire, en fait, c'était de vouloir ramener la société à ce qu'elle était à l'époque du prophète. Et donc, mettons, il n'y avait pas de mystique à l'époque du prophète, donc il fallait supprimer tout ce qui était mystique. Je dis que c'est illusoire, parce qu'en fait, on ne pouvait plus nous représenter ce qu'était la société à l'époque du prophète. Mais donc, c'est un peu ça. Donc, et de façon militante. Le salafisme a aussi cette idée de revenir aux pratiques des pieux anciens. Et de façon, le salafisme est un terme qui est employé un peu à tort et à travers.
Oui, c'est un peu
le retour à la volonté de suivre l'exemple de toute première génération de musulmans. Oui. C'est ça. Donc on essaie de revenir aux pratiques les plus anciennes et de laisser tomber tout ce qui a pu venir dans les siècles qui ont suivi.
Et pourquoi le salafisme et le wahhabisme sont devenus deux entités différentes?
C'est pas deux entités différentes. Le salafisme, c'est un terme qui est très galvaudé. Il vaut mieux oublier, je trouve, parce que tout le monde est salafiste. Les wahhabites sont salafistes, de toute façon. La presse utilise ce terme. Vous avez des salafistes qui sont des gens tout à fait pacifiques, hein, qui ne cherchent pas du tout à se mêler de politique. Donc c'est...
Alors, comment on pourrait le classer? Enfin, si on peut faire un classement, je ne sais pas, parce que vous dites, bon. Il y a des erreurs dans la presse. Comment peut-on contrer ces erreurs dans la presse? C'est quoi les arguments?
Ce qu'il faut distinguer, c'est de savoir si tel ou tel musulman, mouvement musulman, veut socialement et politiquement imposer ou non un certain ordre juridique et moral. Parce que c'est ça, les frères musulmans, c'est ça, c'est un mouvement qui cherche à réislamiser la société, à avoir une prise sur la société.
Donc il y a les frères musulmans, il y en a d'autres, de courants, qui cherchent à...
Les frères musulmans eux-mêmes sont divisés entre eux, mais la question est de savoir, on va créer le pouvoir, d'accord, mais comment, par quel biais, est-ce que oui ou non on accepte le jeu parlementaire? Alors il y a ceux qui disent, non, il n'est pas question, puisque de toute façon nous obéissons à la loi de Dieu, et jamais aucun parlement ne pourra abolir une prescription coranique, c'est nous refusons cela. Première attitude. Vous avez ceux qui disent on peut se servir de la voie parlementaire des élections pour avoir des sièges au Parlement et ainsi faire avancer notre cause. Deuxième possibilité. Une troisième possibilité, c'est ceux qui éventuellement jouent entièrement le jeu parlementaire en disant on crée un parti musulman, un peu comme il y a des partis démocrates chrétiens, et puis on essaie de promouvoir nos idées de cette façon-là. Passer en Turquie un peu.
Un philosophe, on s'arrête un peu au XIXe siècle, pour penser que le pouvoir de l'Ouest, les philosophes qui se situent dans une mouvance.
Avec l'Ouest, ils se situent dans une mouvance complètement philosophique.
Ouais. Mais c'est pas la suite du courant, la raison dont vous parliez au XIXe siècle?
Si, mais c'est un philosophe aristotélicien. C'est-à-dire qu'il est très célébré parce qu'il a beaucoup marqué la pensée scolastique, mais le contenu de sa pensée n'a plus du tout d'actualité. Si ce n'est sa grande admiration pour Aristote, pour le raisonnement des
sophistes. Mais ça ne se fait pas dans un courant à l'époque.
C'est un courant que je ne vais pas citer ici, c'est le courant qu'on appelle Falsafa, c'est un courant philosophique, donc d'inspiration hellénique. Qui d'ailleurs, qui est très peu nombreux, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais qui se fondait sur l'idée que par l'exercice de la raison, mais la raison illuminée, parce qu'Averroès appelait l'intellect agent, peut parvenir à une vérité. Et ce que disait Averroès en disant celui qui vraiment pratique sa raison, mais vraiment la raison fixée de Dieu pour dire des choses comme ça, atteint par la voie de la philosophie ce que le parent explique par la voie de la révélation. C'est ce discours qui a été. Et il y a une seule vérité, mais deux voies pour y aller, soit la philosophie, soit la révélation.
C'est une thèse de l'histoire de plus qu'un sort de laïque.
Ah bon,
c'est une thèse de l'histoire de plus qu'un sort de laïque. L'idée qu'il y a deux accès à la vérité. La vérité unique, il y a deux. Il y a une manière de foi et il y a une manière par la raison.
Par la raison. Mais une raison qui est accompagnée de toute une ascèse. Ce qui se passe avec le philosophe qui m'a rencontré. C'est le philosophe au sens antique du terme, c'est lui qui va me dédier le nom de sa vie. Mais après tout, ils disaient après, on fait rentrer l'impôt comme ça globalement, mais ils n'étaient pas. Ils ont eu un régime fiscal assez libéral. Qui plus est, ils ne s'intéressaient pas aux divisions entre chrétiens, monophysites, historiens, tout ça. Donc les sectes se sont sentis beaucoup plus libérés. Les juifs qui étaient persécutés par les Byzantins sont très bien accueillis aussi. Ce qui fait qu'à cette époque-là, toutes les communautés religieuses trouvaient leur compte dans le califat arabe. Après, ça, c'est, la fiscalité a évolué, mais à cette époque-là, c'est tout à fait stupéfiant qu'il n'y a pas eu du tout de mouvement de révolte contre les Arabes, ou quoi que ce soit, pour se défaire de leur présence.
Moi, j'ai une question suivante, c'est de la même façon que là, je comprends bien que la plupart des communautés pouvaient avoir une compatibilité ou une vie tout à fait satisfaisante sous le califat. Comment la laïcité est-elle compatible avec justement ces courants musulmans ?
Sans tout à fait moderne ?
Oui.
C'est une question qui est un peu trop vaste. Où est-ce que vous. Qu'est-ce que vous entendez par la laïcité ?
La laïcité, c'est-à-dire que toute la vie publique n'est pas régie par le fait religieux. Et puis une volonté justement de régir par les instructions ou les commandements du Coran, des hadiths, etc., dans la société, tous les aspects de la société. Et en fait, c'est cet équilibre-là.
C'est une question d'option fondamentale. C'est plus du tout, on n'est plus du tout dans les conflits entre sunnites, chiites et autres.
Non, il y en a qui sont plus compatibles que d'autres, j'en sais rien.
C'est au fond la question d'accepter ou non la souveraineté du sujet. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que chaque sujet, qu'il soit homme, femme, religieux, mécréant, a le même droit identiquement. Alors, soit on les accepte et dans ce cas, il n'y a absolument aucun problème, soit on ne les accepte pas, comme c'est le cas de pas mal de pays musulmans qui ont promulgué la.
Mais est-ce que justement, il y a dans les différents courants que vous avez exposés, est-ce qu'il y en a qui sont plus ouverts justement à cette égalité de droit?
Non, parce que la question repose quand même sur des hadiths. Et il y a des hadiths qui marquent quand même l'inégalité entre l'homme et la femme, entre le croyant et le non-croyant. Quelqu'un qui est athée n'a pas le droit de citer. En principe, dans trois rangs anciens, bien sûr, quelqu'un musulman qui quitte sa religion, qui la renie ou qui va voir une autre, on va dire, une autre religion, et puis ça met de mort. Donc, bon, ce sont des points qui sont radicalement incompatibles avec une société laïque. Mais là, c'est chaque.
Et il y a un courant justement musulman qui a évolué en disant il faut qu'on interprète, et on interprète en disant cette partie-là, je dirais, on ne la prend pas au pied de la lettre, on la fait évoluer.
Ça existe, mais c'est très récent, c'est à partir du 19e siècle, mais avant.
Et c'est quel courant aujourd'hui qui suit ça?
Ce sont des penseurs, ce qu'on appelle les nouveaux penseurs de l'islam. Vous avez déjà parlé des gens comme Fazl al-Rahman en langue anglaise, vous avez Mohamed Talbi qui est mort cette année, enfin vous avez comme ça des universités.
Enfin, c'est des personnes plus que des.
Oui, plus que des courants.
Par exemple, à Lazare, il existe un courant autant, c'est un meuble de l'université à Lazare, qui est minorité d'ailleurs. Des gens qui souhaitent qu'il y ait des formes qui soient faites, qu'on va évoluer, etc. En Tunisie, il y a pas très longtemps, on a vu que le droit évoluait également dans le sens de permettre la liberté de religion, de ne pas croire. Ce sont des services. Voilà, mais ce que disait M. Louis, ça reste assez nouveau et
ça a été imposé en Turquie. Bon, la Turquie, effectivement, devenue un pays radicalement laïque, effectivement.
Si vous parvenez à dire que cette liberté de religion, de conscience, elle existe fondamentalement dans l'islam, ne serait-ce que de verser point de contrainte de la religion. Sauf que tout dépend de l'état de la communauté, si c'est mis en valeur ou non. Ça n'a pas été mis en valeur à certaines époques. Aujourd'hui, on y revient, vu l'état de la communauté et de la pression de ce qui se passe au Occident. Là, on est en train de ce qu'ils appellent les nouveaux réformistes qui essayent d'utiliser des textes qui existent, qui ont toujours existé, mais tout dépend de l'interprétation. Le verset, il est clair, la cœur à la n'ont point de contrôle de la religion. Donc, même l'histoire d'apostasie, maintenant, les gens, ils la remettent en cause. Le musulman, à l'époque, c'était pendant des guerres où un traître, c'est normal, dans toutes les armées, ça se fait, c'est la peine de mort. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui quitte sa religion, l'islam, qui n'a pas du tout soumis à la peine de mort.
Vous avez mis le doigt là-dessus, c'est sur le point névralgique, à savoir si on replace dans le contexte historique, là, les choses peuvent s'éclaircir tout de suite. Au fond, ne pas dire tel hadith, tel verset du Coran est valable en tout temps, en tout lieu, pour tout le monde, pour tout le monde.